séminaire de promotionnel. Donc il a fait les quatre discours. Et il reprend dans l'année suivante, dans un discours qui ne serait pas du semblant, la suite d'un autre à l'autre. Donc commencer à découper les séminaires pour les lire. Lire, c'est découper. Hein, l'angoisse, ça continue dans problèmes cruciaux. Il faut voir que c'est une parenthèse, les quatre concepts. Et je vous dis, c'est en plus un piège, puisque c'est un moyen de ne pas lire position de l'intention. Alors Lacan, dans les quatre discours, là, à la fin de son séminaire sur l'envers de la psychanalyse, le numéro, je ne sais plus combien c'est,
en Argentine, 17.
17. Parce qu'en Argentine, ils connaissent tous les séminaires que par le numéro. Ben oui, parce que c'est chiant de traduire. L'insuccès d'une début, c'est l'amour en espagnol.
Non, surtout, on ajoute 52 et on a exactement l'année où il a commencé.
Voilà, bien sûr. Alors, mais ça, mais c'est, bon, c'est quand même pas la même chose de dire le titre d'un séminaire dans la phrase, dans l'angle, et de le dire. Et moi, je leur dis, mais dites-le mal, mais dites-le n'importe comment, dites-le en espagnol. Ça sera toujours plus marrant que de 17, 18, 20, 26. Le symptôme, c'est 23. Je sais, on le dit tout le temps. Alors, Lacan, dans le 17, donc, dans le séminaire sur les quatre l'envers de la psychanalyse, à la fin de l'année, il dit qu'il a pris son titre du fait d'un des romans de la comédie humaine de Balzac qui s'appelle L'envers de l'histoire contemporaine. D'ailleurs, Miller, dans l'édition, note qu'il a fait un lapsus parce que Lacan le dit que ça s'appelle L'envers, hein, l'envers du discours contemporain. Mais c'est l'histoire contemporaine. Bon. Donc, il dit l'envers de l'époque contemporaine, alors que c'est l'envers de l'histoire contemporaine dans la comédie. Et Lacan lui dit la chose suivante, il nous dit, lisez ça, mais lisez ça absolument, parce que vous allez trouver là quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais lisez l'envers de l'histoire contemporaine de Balzac. Et Lacan de nous dire, de toute façon, ça va vous faire chier, vous allez voir, ça va vous emmerder absolument. Mais il y a quelque chose à lire là-dedans, dans ces histoires d'apologie du Christ. Alors chacun va lire ça avec ses noms du père à lui, bien sûr, on va lui mettre le sens qu'on veut. Hein. Le problème, c'est comment arriver à lire dans Balzac. Qu'est-ce que Lacan dit ? Il nous dit, vous allez y trouver quelque chose que vous ne trouverez même pas dans Marx. Donc ce serait un complément du Capital, c'est intéressant. Hein ? Peut-être que ça échappait à Lénine. Moi je tiens que la révolution française, vous avez déjà dit, c'est le pape qui l'a organisé, donc c'est pour ça que ça finit à l'intérieur. Parce qu'ils veulent dégoûter tout le monde, d'ailleurs les Russes et les Chinois ont fait pareil après. On ne peut pas faire de révolution sans que ce soit de la terreur. Bon. Alors, c'est parce qu'on est tenu de faire la fameuse, la grande révolution française. Donc, ce que je vous dis, 68, c'est Pompidou qui l'a provoqué. Hein, en trahissant De Gaulle, les jeunes gens, ils se sont embarqués. Comme Bendit, vous voyez, c'est un frère d'armes de Sarkozy. Il vient de gagner, paraît-il, à 12% des voix. Parce qu'il y avait 30% de votants, hein, rassurez-vous. Bon. Donc, comme Bendit, il est le frère de lait de Sarkozy. Sarkozy, c'est l'héritier de Balladur. Balladur, c'était le conseiller de Pompidou. Donc, vous avez Pompidou qui fait 68, hein, Pompidou qui trahit De Gaulle. Tous avaient un couteau comme ça, prêt à assassiner De Gaulle d'un coup de couteau dans le dos, dans le Conseil des ministres. Hein. Celui qui ne dit rien, c'est Jobert, Michel Jobert, ministre à l'époque des Affaires étrangères. Un type intelligent, d'ailleurs, Michel Jobert. Il est devenu pote de Mitterrand. C'est pas si intelligent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, il n'est pas borné. Quoi. Et alors, tout le monde était planté dans les ministères, on était catastrophés parce qu'on avait tout à fait l'idée que c'était nous qui avons fait ça. Bon. C'est le gouvernement qui gouverne, donc c'est le gouvernement qui fait les révoltes. Hein. Les jeunes, ils sont au goût de l'ordre. Vous connaissez, vous avez déjà parlé avec vos enfants. Hein. Bon. Puis à partir de 3 ans, ils sont adultes. Bon, ils n'ont pas de goût de l'ordre entre. Un an et deux ans. Jusqu'à un an, ils sont un peu HS. Faut faire beaucoup de choses pour eux. Mais dès qu'ils commencent à crapahuter et à parler, génial. Ils bouffent tout, ils vont partout, c'est génial. Ils ont l'esprit scientifique pendant un an. Dès qu'il y a 2 ans, hop, ils imitent la nourrice, Ils font comme la maman, comme la grand-mère. C'est des adultes. Ils sont adultes à passer 2 ans, 3 ans, ça y est, ils sont adultes. Vous voyez, ça fait des phobies pas mal. Alors, ils ont le goût de l'ordre. À 14 ans, c'est pareil. Ils ont l'esprit fort. Et à 15 ans et à 20 ans, c'est toujours pareil. Et ils croient au Père Noël. Même quand on leur a dit qu'il n'y en avait pas. Moi, je vous ai dit que mon fils, il m'a demandé à 14 ans, il m'a dit un jour, un tard, très sérieusement, il m'a dit, écoute, papa, j'ai une chose à discuter avec toi. Bon, je sais bien que le Père Noël n'existe pas. On en a parlé avec mes copains.
Mais quand même.
Comment? Mais quand même, est-ce qu'il n'existe pas un peu? Génial. Je lui dis, ben, sans doute. Et d'ailleurs, je pense qu'à 14 ans, c'est le cas, à 20 ans, à 30 ans, toute la vie. Là-dessus, donc, il y a cette histoire de c'est pas seulement des histoires de famille, c'est que 68, c'est Pompidou qui travaille de Gaulle, qui entraîne tout son gouvernement, les jeunes gens se jettent là-dedans, ensuite ils vont appeler le relais de la classe ouvrière, qui va se mettre à faire la grève. Moi, je vous dis, De Gaulle, il n'avait pas du tout d'inquiétude pour ce qui est du fait d'arrêter la grève des examens. Vous avez vu, là, cette année, ils ont laissé pourrir. C'est un scandale. Aucune négociation. Bon, puis ça s'arrête. Bon. Mais De Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait pour arrêter les grèves? Il a dissous l'Assemblée. Période électorale. Ah, non, on ne peut plus faire les grèves, non? C'est simple. C'est ça, la politique. Mais il est allé à Baden-Baden voir les militaires, à Massue. Pourquoi? Parce qu'il craignait de savoir qu'est-ce qu'il allait... Est-ce que l'armée allait le suivre? Toujours, parce que tous les autres l'avaient lâché, vous comprenez? Ils s'inquiétaient de ce que faisait le Pompidou. Ils s'inquiétaient pas du tout de ce que faisaient les étudiants qui faisaient la chienlit, comme ils disaient là. Donc vous voyez, moi je suis un peu tempéré sur le côté. Par contre, ce qu'il faut dire de 68, mieux encore que Milner dans l'arrogance du présent, parce qu'il en parle, un peu, il dit des choses pas mal. Et il dit une chose sur laquelle moi j'accentue absolument les choses, c'est que cette carence du pouvoir. Des soi-disant responsables, des adultes, des supposés adultes, des gens sérieux, hein, ça a créé un vide qui fait qu'on a vu apparaître la parole qui s'est mise à se développer au coin de la rue. Ça, c'était intéressant. Ça, c'était quelque chose d'étonnant. Vous voyez, les gens parlaient de n'importe quoi, tout le monde avait des avis sur tout, et ils parlaient avec n'importe qui.
Dans toute une période de grève prolongée, c'est ça?
Voilà, alors ça s'est reproduit un peu avec la grève d'André Juppé, là, il y a quelques années, quand vous savez, il y avait les fonctionnaires pouvaient se mettre en grève sans être trop menacés, puis les employés du privé étaient même plus menacés de se faire lourder, quoi. Bon, alors donc, il y avait une espèce de solidarité qui s'est mise en place. Mais ça, c'est très intéressant, ça. Vous voyez, les gaullistes, ils adorent ça. Ils ne peuvent vivre qu'en état d'insurrection. Vous voyez, vous en avez marre des racailles, et là, on va vous en débarrasser, vous voyez. L'incendie partout, la guerre d'Algérie. Vous voyez, bon, c'est des gens extrêmement dangereux. Hein, parce qu'un jour où hein, les Iraniens, ils ne sont pas rigolos comme ça. Hein, ils mettent des vrais bombes. Bon. Donc le problème, il est quand même que c'est des gens très dangereux, les gaullistes. Moi, je ne suis pas du tout tenté par le gaullisme, ni le péronisme argentin. C'est un peu le même truc. Bon. Mais n'empêche que ça, cet aspect-là, si vous voulez, ça fait que. Ce qu'il faudrait dire aujourd'hui simplement, c'est que Sarkozy, c'est l'héritier de Balladur. Balladur, c'était le conseiller de Pompidou. C'est les fomenteurs de 68. Et le seul truc du président actuel, c'est qu'il est venu à la rescousse parce qu'il paraît plus jeune. Mais il n'est pas plus jeune, il est plus infantile. C'est un Balladur en culotte courte. Vous avez vu qu'il allait se marier à Disney World? Non, il a été annoncé qu'il se mariait à Disney World. C'est quand même formidable. C'est d'un infantilisme ringard et d'une. C'est pire que Pétain. Pétain, c'était le vieux sénile. Là, c'est le vieux infantile. Vous voyez? C'est du vieux infantile. Bon. Mais ça, il n'y a pas un journaliste qui va l'écrire, malheureusement.
Non, mais il y a un dessinateur de BD qui a bien pigé ça, de l'épine.
Ah bon?
Ah oui, il a un très super. Il écrit pas seulement ça.
Et il le raconte comme ça, le pouvoir actuel.
Oui. C'est pas le pouvoir, c'est sur la relation père-fils, genre, et c'est
que ah oui. Avec les enfants. Ouais. Oui, mais c'est parfaitement infantile. Mais seulement c'est gravissime parce que ça, crée, ça casse des trucs incroyables. Hein. Prétendre que les suicides des jeunes, ça va se résoudre à coup de neuroleptique, c'est quand même inquiétant. Mmh. Mais je pense qu'on on a tous une responsabilité dans cette situation. Bon. C'est le principe même de la démocratie, remarquez, hein. C'est le président de tous les Français. Bon, moi, je m'enfuis en Argentine parce que je suis un lâche.
On n'a pas tous une responsabilité.
Comment ?
On n'a pas tous une responsabilité.
Si, on a une responsabilité quand même de ne pas avoir bien parlé. Sans doute, on n'a pas suffisamment bien parlé dans son quartier, dans sa famille. Moi, je pense
putain,
que...
dans ma famille.
Ah oui, bah, oui.
J'ai parlé dans ma famille.
Ça n'a pas été efficace.
Ça n'a pas été efficace. Non, mais c'est
cool.
Mais
ça n'a pas été efficace, voilà. C'est pas efficace. Comment est-ce qu'on peut pas, comment ça se fait que toute une population, même si on me raconte Berlusconi, propriétaire des télés, lui il a été favorisé par les télés, déjà il n'est pas propriétaire. Ouf. Bon, peut-être que les télés vont se retourner leur veste. Hein. Le Monde, ils ont l'air de voir un peu changer leur veste. Bon, de toute façon, tout ça n'est pas mystérieux. Ce que je veux dire, c'est ce genre de calamité, c'est pas mystérieux. Et alors, pour en venir à l'envers de la vie contemporaine, Lacan, il nous dit, eh bien, lisez l'envers de l'histoire contemporaine, il y a quelque chose qui n'est pas dans Marx. Et alors, moi, je vous pose la question, qu'est-ce que c'est ? Il n'est même pas dans Marx. Et là, je rejoins Lévi-Strauss. Hein. Vous voyez, Lacan, si vous comparez à Lévi-Strauss, Lévi-Strauss, c'est un génie révolutionnaire courageux. Lacan, c'est un génie révolutionnaire courageux et stratège. C'est une horreur pour tout le monde, parce que c'est vraiment d'une férocité, le plan qu'il a eu de faire se disputer là, ces deux clowns, hein, le Flaco et le Bordeaux, Laurel Hardy, pour l'édition, pour la publication du séminaire, c'est génial, ça marche. Le séminaire, on a tout, sauf la topologie et le temps. On peut lire en espagnol, mais c'est le séminaire où moi j'interviens. Oui, je n'ai pas la prétention de croire que c'est seulement à cause de ça. Mais peut-être que mêlement ça lui donne des boutons, vu ce qu'il a écrit sur moi. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il y a dans Lévi-Strauss ? Eh bien, ce qui n'est pas dans les autres, dans Balzac, qui n'est nulle part ailleurs. Alors, je ne vous raconte pas l'envers de la vie contemporaine, pour faire un peu plus court. Bien que c'est marrant à raconter. Hein. Bon, il y a un docteur qui c'est Lacan à la fin. Vous voyez, comme le chinois de Zrapang. Hein, il y a un docteur à la fin, dans la deuxième partie, le héros, il va chercher à persuader un père de faire soigner sa fille, et la communauté qui a de l'argent, la prête de l'argent, pour qu'il puisse payer le docteur. Et le docteur, c'est un médecin qui arrive en calèche au Georges V, vous voyez, avenue Georges V, pour les Champs-Élysées, l'hôtel Georges V, il descend à l'hôtel Georges V pour donner ses consultations, c'est assez chic. Quand vous en serez là dans votre carrière de psychanalyste, hein, vous avez des rendez-vous au Georges V, et alors il arrive avec un manteau de fourrure, ça c'est Lacan, vous avez connu Lacan des manteaux de fourrure à la fin de sa vie. Ah oui, au moins, je ne sais pas, des choses extrêmement précieuses, un vrai investissement, pas du tout la consommation.
Il y a des bretelles pour tenir le temps.
Oui, il y a aussi des bretelles. Mais en fourrure ?
En bison.
Bon. Toujours est-il que la provoque, ça le connaissait très bien, mais là, dans Balzac, vous allez trouver, il y a un personnage comme ça, il y a un docteur qui est le spécialiste d'une maladie inconnue, hein, c'est pas Alzheimer, c'est génial, et la fille, elle a cette maladie, peut-être. Bon, alors on l'emmène, alors le père l'emmène, finalement, il accepte de faire soigner sa fille, bon, il vit dans la misère, enfin, lisez ça, c'est passionnant, il la porte dans ses bras, il la monte dans la chambre du docteur, qu'il la reçoit dans une suite, là. Il est assis un petit secrétaire, docteur, en train d'écrire. Bon, je ne sais pas s'il a retiré son manteau de fourrure. Toujours dit, il la regarde par-dessus les lunettes en se tournant comme ça. Il dit rien et il dit, il remplit un papier, une ordonnance, et il dit, revenez dans 6 mois. Je vous dis, le neurologue, c'est 1 an. Le maître chinois, c'est 1 semaine. Lui, le docteur, c'est ça qu'il faut savoir faire. Hein. Revenez dans 6 mois. Bon. Et 6 mois après, ça se passe pareil, mais la fille est guérie. Génial, la médecine, c'est formidable. Voilà, ça, c'est dans Balzac. Alors, est-ce que c'est de ça dont il s'agit, que vous n'avez pas trouvé dans Marx ? Non, c'est pas ça. Alors, il le dit là, dans le dialogue avec Madame Bardet-Giraudin. Après avoir dit, on n'est pas là pour faire de la psychobiographie, la dame, elle dit une chose très très bien, que vous devriez noter sur tous vos cahiers pour arrêter de vous faire rouler là dans la farine. Par les enfarinés, vous noterez que la dame, elle dit une chose très très bien, elle dit le discours d'un auteur qui écrit, c'est ce qu'il écrit. Point. Non, mais c'est pas mal quand même. C'est la valeur faciale dont parlait Mallarmé des pièces usées qu'on se passe en silence, non ? Vous n'allez pas aller. Moi, les gens qui commencent à me dire t'as dit ça parce que ça. Ouais, déjà, même alors le coup de la dénégation, tu dénies parce que. Non mais c'est un truc à rendre fou les autres, c'est un truc de dingue, c'est un truc de salopard, de la psychologie. Bon. Hein? D'accord, il le dit, la psychologie, ça conduit au camp de concentration. Bon. Il le dit dans le dialogue avec les étudiants en philosophie. Hein? Bon. Les bonnes intentions, même les bonnes intentions, eh bien, elles ne garantissent rien du tout. Alors moi, les gens qui ont des bonnes intentions, je m'en méfie, mais comme de la veste. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Elle dit très très bien, elle dit, quand on lit, on lit. Quand on lit ce qui est écrit. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Bah, bien sûr, pour lire ce qui est écrit, il faut aussi lire d'autres choses écrites. Vous voyez? Moi, je vous dis, pour lire Lacan, il faut lire Freud, il faut lire Jones, il faut lire Joyce pour lire Lacan sur Joyce, bien sûr, mais pas pour espérer trouver, je ne sais pas moi, le mystère de la signification qu'il y a dans l'amalgame de la tête de Joyce, vous voyez, l'amalgame de Alcibiade et de Socrate. Bon, l'objet secret et sacré. Il n'y en a pas de secret, il n'y a qu'une seule chose, c'est qu'il faut non seulement être vivant et en acte, dans le discours. C'est comme ça qu'on peut lire, c'est comme ça qu'on peut écrire. Vous voyez, moi, qu'est-ce que je fais là? Je vous raconte, je vous parle, qu'est-ce que je crache? 9 ans de séminaire, pas plus, hein. Bon, mais ensuite, j'ai lu pendant 10 ans, 20 ans, les séminaires, rétroactivement, ils sont tous disponibles, sauf celui que je reviens. Et puis, j'ai lu les écrits, peut-être dans leur entier, j'ai dû les lire au moins 5 fois. Bon, avec une méthode, hein. Il faut se donner, vous voyez, si vous ne donnez pas de méthode, pas de contrainte, vous n'arrivez à rien. Si vous êtes là en train de vous laver les dents en même temps que vous mettez un doigt dans l'oreille et que vous pensez que vous allez lire Lacan, aucune chance, Lacan ou un autre, aucune chance. Les contraintes, comme le dit Max Jacob, qui est un saint, dans le préface du Cornéadé, tout ce qui existe est situé. Hein, et le style, c'est s'exprimer selon des moyens choisis. Vous voyez, c'est comme le pathologique de Mauss. C'est comme les noms du Père, c'est des choses. Il faut choisir dans des différences. Et si vous vous donnez un certain nombre de contraintes, regardez, c'est arrivé à Pérec avec l'Oulipote. Et Dieu sait si l'Oulipote, c'est pas ce que je fais. Hein, c'est pas du tout comme Queneau, je ne comprends pas Queneau et Lacan. L'instance de la lettre et l'Oulipote, c'est pas du tout la même chose. Hein. Bon, c'est bien, le Queneau, c'est amusant, c'est divertissant, mais rien à voir. Et moi, j'ai fait un exposé à Orléans là-dessus, assez long, pour comparer l'instance de la lettre et l'Oulipote. La différence, elle est justement entre l'acte. Lacan, c'est pas le sexe comme ça, de la sexologie. Ou... Non, c'est le sexe en acte. La question, elle est là. Hein? Parler, est-ce que quand je parle, je baise? Voilà la question. C'est pas. Et je vous dis, les poètes et celui qui parle, c'est pas un temps. Ça peut pas être un temps. C'est forcément une vache. Il faut le dire. C'est pas une raison de ne pas parler. Mais c'est aussi d'avoir une responsabilité, hein, l'idée de la responsabilité de ce qu'on fait quand on parle. Hein. Parce que la parole, c'est quelque chose de tout à fait redoutable. Bon. Et alors donc, cette dame, elle, je trouve qu'elle est extrêmement bien, et elle dit aussi exactement, à un moment, elle coupe Lacan en lui disant « Oui, non, on n'est pas là pour faire de la psychobiographie de Balzac. » Alors qu'est-ce qu'il dit Balzac à la dame? Il dit « Ben moi, ce qui m'intéresse, c'est les femmes de Balzac. » Et Lacan donne la formule, alors je vous la donne, ça va vous éviter de la chercher, c'est dommage. Vous voulez que je vous le dise ou... Hein?
Oui.
Oui, oui. Bon. Parce que sinon, vous pouvez lire le roman de Balzac sans le savoir, et puis ensuite lire la solution dans Lacan. C'est plus marrant. Bon. Enfin. Moi, on m'a donné toutes sortes de solutions. Moi, j'avais proposé un concours. J'ai fait un concours. Qui trouve la réponse à la question « Qu'est-ce qu'il y a dans Balzac que vous ne trouverez même pas dans Marx ?» Eh bien... Lacan, il explique ça là-dedans, dans le dialogue avec la dame, rue Claude Bernard. Dans Balzac, vous allez trouver le fait qu'il n'y a que des femmes qui savent quoi faire avec de l'argent. Pour, entendez bien la formule de Lacan, qui est quand même assez formidable, pour redresser des épaves. Comment? Non, c'est pas du tout. C'est comment utiliser l'argent. Vous voyez, Marx, il a tout prévu. Il a compté, il a vu la banque. Là-dedans, vous avez l'histoire de banque. Hein. Le père Alain, il a prêté ses économies à un mec qui est parti à l'Eldorado, là, en côté Colombie. Le père Alain, il avait fait une croix sur ses économies. Il n'y pensait plus, c'était perdu. Le mec, 30 ans après, il revient avec femme et enfant. Il a fait fortune, il ramène l'argent au père Alain et il lui ramène avec les intérêts. Et en plus, comme il crée une banque, parce qu'il a gagné tellement d'argent, l'Eldorado, c'est du côté du Rio de la Plata, vous voyez, hein, Montevideo, Buenos Aires, pop. Moi, je vais là-bas pour ça, j'espère que je vais revenir, je vais faire une banque. Bon, le problème, il est que, qu'est-ce qui se passe? Le mec qui propose de gérer l'argent du père Alain dans sa banque. Et qu'est-ce que propose madame de la Chartrerie? Ben de créer une communauté qui va aider, qui va prêter de l'argent. Elle est la mère d'une femme qui a été guillotinée par la Révolution. Ce sont des Vendéens, des Chouans. Ils sont anti-révolutionnaires. Hein, réac. Les bons Chouans, réac de la Vendée, mais anti. Et en plus, sa fille, elle déguisait en garçon, elle allait à cheval, et elle faisait la contre-révolution, elle a été guillotinée par la Révolution. Et bien, madame de la Chantrerie, elle a sa petite communauté, là, où le héros va se retrouver comme ça par hasard. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prête de l'argent sans intérêt, s'il vous plaît. Mais il faut rendre l'argent, quand même. Il faut rendre la somme prêtée. Vous voyez, on ne mange pas le patrimoine du père Alain. Le patrimoine du père Alain, il est entretenu par la banque qui s'occupe de cet argent. Vous comprenez? Et bien, Lacan, il dit, il n'y a que des femmes qui peuvent faire des trucs comme ça. Savoir utiliser l'argent pour, et dans l'expression, c'est de redresser. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça vient à Lacan comme ça, redresser les épaves humaines, mais les maisons pour les jeunes délinquants, autrefois les écoles, on les appelait les maisons de redressement. Et, donc c'est le côté, vous voyez, redressement. Enfin, ce que je veux dire, c'est, bon, c'est pas Foucault, c'est pas surveiller et punir, c'est un gros titre, surveiller et punir. Hein. Bon, Foucault, c'est les archives. Mais Lacan, vous voyez, il dit les femmes. Alors, il ajoute la chose suivante, le commentaire suivant, il dit que les femmes dans Balzac sont inexcusables. Elles n'ont aucune excuse, sauf Eugénie Grandet, qui a fait mourir ses parents. Il trouve que Eugénie Grandet est la seule femme dans Balzac qui est estimable, parce qu'elle a fait crever ses parents de rage, de honte, mais en les ruinant, donc, mentalement. Donc, Lacan, il trouve que sinon, les femmes dans Balzac sont indéfendables. Voilà l'expression qu'il emploie. Indéfendables. Je trouve que c'est assez intéressant, ça devrait donner à réfléchir, de réfléchir à cette histoire de dame, non ?
Avec les épingles, qui redressent en main.
Oui, oui, puis on peut penser qu'on les redresse en redressant le mât, oui. Mais là, c'est avec de l'argent. C'est ça qui n'est pas dans Marx. C'est comment utiliser l'argent pour faire ça. Et pour savoir le faire et penser à le faire. Voilà des choses qui intéressent Lacan. Ça, je vous soumets ça pour voir qu'est-ce que vous pouvez raisonner là-dessus. Mais surtout, ce que je vous propose, c'est de lire ça. Donc, je finis sur Joyce, Lacan-Joyce avec Lacan, très mauvais titre, hein. Kant avec Sade, Lacan avec les philosophes, Joyce avec Lacan, ils nous emmerdent. Kant avec Sade, il faudrait déjà le lire, c'est un texte magnifique, c'est même mieux que La monnaie vivante de Klossowski, que Foucault trouve extraordinaire, mais ils n'ont pas lu Lacan. On va le reprocher, c'est un peu trop proche. Toujours est-il que Joyce avec Lacan, écoutez, il y a des choses simples. À quel moment Lacan parle de forclusion dans le séminaire de Saint-Aube à propos de Joyce, à propos du père? Il dit le père, il était alcoolique, il a confié son fils aux jésuites, à la diplomatique church. Bon. Et donc là, quand il a ce mot, il dit ouais, il a l'air d'avoir un truc un peu faiblard du côté du père, un peu vers fou. Alors ça y est, Lacan a dit que Joyce était. Il faut quand même pas avoir lu Joyce pour dire une chose pareille, ni Schreber. Et puis je voudrais remarquer qu'en ce qui concerne le père de Joyce, le père de Schreber, il n'était pas psychologue, il n'était pas alcoolique du tout. C'était le père qui a inventé la gymnastique pour les ouvriers, la classe ouvrière, et qui faisait des Schreber Garden. Hein. Il avait une opinion sur tout, il savait tout sur tout. Hein. Et au point que Lacan même a essayé de se procurer son livre de gymnastique pour voir les petits hommes qu'on trouve dans le délire de Schreber. Des petits hommes bâclés à la 6-4-2, vous voyez. Bon. Vous remarquez que Lacan, ce qui l'intéresse dans le père Schreber, c'est justement, il a écrit un livre, il y a des petits hommes, comme dans le délire. C'est une question de. Alors, est-ce que ça ressemble? C'est pas une analogie, c'est pas que ça ressemble. C'est qu'il y a quelque chose là qui s'écrit pas. Vous comprenez? Comment ça peut s'écrire? Si ça revient dans le délire du fils, c'est qu'il y a quelque chose qu'il cherche à s'écrire. Hein. Peut-être qu'il cherchait à s'écrire justement dans son manuel de gymnastique. Et ça, c'est bon. Il y a psychose. La psychose, c'est le transfert sans analyse. Ça veut dire, c'est quand on ne le lit pas. C'est pour ça que lisez bien en télévision ce que Lacan dit de l'inconscient, il dit, est-ce que l'inconscient suppose qu'on l'écoute? À mon avis, oui. Bon. C'est pas qu'on l'écoute, c'est qu'on lit, ce qui est de l'analyse. Bon. Il dit oui, mais pas sans un discours, et là, il parle du discours capitaliste. Tout le monde croit qu'il parle du discours analytique. Vous voyez que il faut l'écouter, mais dans le cadre d'un discours. Alors du coup, ça va donner la tendance syndicale et corporatiste et mafieuse des analystes qui croient qu'ils ont besoin d'être dans un discours. Bon. On est dans un discours. Le discours analytique, c'est un lien social. Actuellement, il est délirant. Mais on est dedans quand même. Hein. C'est quand même un lien social. Mais il n'y a pas de lecture. Bon. Et donc là-dedans, il dit, l'inconscient suppose qu'on l'écoute, et Madame Soler a tort d'écrire un titre comme le délire psychotique, l'inconscient à ciel ouvert, justement. Ça peut être le même matériau. On s'est tous posé la question quand on était analysant. Enfin, je ne sais pas, peut-être que je suis con, j'étais trop jeune, je ne sais pas, j'avais 24 ans. Je me suis posé la question, est-ce que je suis psychotique est-ce que je vais devenir comme l'homme au loup en fréquentant Lacan? Les gens me disaient surtout, on ne va pas voir Lacan, c'est très dangereux. Bon, ils voulaient tous me sauver, les uns, ou me guérir. Me soigner ou me sauver. Soit mon âme, soit mon corps. Bon, moi, Lacan, je trouvais que c'était formidable. Ça parlait. Hein. Mais on se pose la question. Alors, je suis psychotique ou je suis pas psychotique? Eh bien, mon bon monsieur, c'est pareil. C'est, quand ça délire, quand ça transfère, ça délire. Quand c'est du délire, s'il n'y a pas de lecture. Hein. Mais voilà, c'est une grande... Il faut être un grand intellectuel, quasiment métaphysicien, pour avoir une pensée pareille, que le même matériau, hein, produit par le délire du Schreiber, d'un autre, d'un psychotique, n'importe qui d'entre nous, s'il n'y a pas de lecture, c'est du délire, c'est de la psychose. Et la psychose, c'est pas un trouble psychopathologique de l'histoire individuelle du sujet, de sa vie, comme dit Lacan dans le séminaire de psychose, il dit, il n'y a pas de psychose infantile. Il y a des gens qui croient que du coup, il dit qu'il n'y a pas de psychose de l'enfance. Et bien sûr que des psychoses de l'enfance, l'autisme, c'est une psychose de l'enfance. Il n'y a pas de psychose infantile, ce qu'il dit à ce moment-là, Lacan, il est en train de dire, c'est pas comme dans la névrose. La névrose, il y a une névrose actuelle, c'est une névrose de transfert, il y a une névrose infantile. Vous voyez ? Bon. Si on parle de névrose et de perversion, on va aller racler un petit peu les fonds de tiroir. Mais ce n'est pas pour faire de la régression. C'est pour lire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la question. Et là, en matière de psychose, il n'y a pas de psychose infantile. Ça veut dire que ce n'est pas la répétition d'une chose déjà jouée. Pourquoi? Je vous dis, le discours, la différence entre névrose, perversion, c'est-à-dire les discours, la structure de l'attraction et de la répulsion dans la différence. Le langage tombe sur le corps. Au moment du trauma, la droite infinie. Le langage, c'est de la différence et de la déviation. Donc, vous avez un truc qui s'appelle sexe, ça s'appelle déviation. Vous avez un truc qui s'appelle langage, ça s'appelle déviation, et c'est ça qui est sexe. Ça détourne, ça dévie, ça drive, ça tribe. C'est ça le mot tribe. Donc, c'est pas la pulsion et la compulsion. Ça tombe sur le corps et ça se met à déconner. Le corps déconne, il n'y a pas d'issue. Grâce à ça, moi, je ne sais pas très bien pourquoi il a besoin d'écrire tant que ça, le corps. J'en sais rien. Je suppose que, comme grâce à cette dérive, il va surmonter, vous voyez, j'arrive quand même à respirer un peu, il va surmonter cette déficience physiologique de la prématuration. Il va raconter des histoires avec son bras, avec son coude, avec son poumon. Il va écrire. Donc, c'est tellement des lettres, vous voyez. Il les prend comme lettres, les organes, de telle manière qu'en écrivant, il va survivre un temps soit peu. Vous voyez, ça va de la naissance au trépas, ça peut aller plus ou moins vite. Et ça ne marche pas très très bien toujours, puisque ça peut même décliner de sexe si on arrête de s'exercer. Hein. La psychanalyse, c'est un super exercice pour les psychotiques. Bon, pour les fous d'abord, parce qu'il faut s'engager, arrêter d'être fou, arrêter d'être une belle âme, et ensuite, il faut se mettre à lire. Bon. Donc on soigne d'abord sa folie, sa belle âme, hein, on arrête de se considérer comme prenant le fait que tout marche mal, sauf ce que je fais. Tout ce que je fais, c'est très très bien. Toutes les troubles du monde, c'est la cause des autres. Bon. Ça, c'est la belle âme. Et puis ensuite, ça soigne la psychose très très bien, puisque c'est une question d'apprendre à lire. Et d'apprendre à lire avec Freud, et d'apprendre à lire avec Lacan, jusqu'à lire ça, vous voyez. Alors, Moi, je fais feu de toi, je peux utiliser la couleur bleue pour vous montrer quelque chose par comparaison. Est-ce que c'est une analogie? C'est parce que vous êtes des sujets que vous allez... Je ne vous demande pas de vous conduire comme... Bon, c'est vrai que j'invente des algorithmes. Je fais les deux, voilà. Je me mets du côté du cardinal en vous racontant des conneries, des histoires, et puis je suggère des trucs. Bon, c'est comme ça. Et puis de l'autre côté, je fabrique des algorithmes. Et là, j'essaye de vous inventer des pseudo-protocoles de lecture. Vous voyez, regardez, dans S1, le premier livre que j'ai fait, il y a un algorithme de lecture des chaînes fickéennes. Je mets un algorithme pour dire comment mettre des petites lettres, comment apprendre à calculer le groupe fondamental du nœud. Vous êtes toujours pas procuré S1, personne? Écrivez à Madame Sotio, moi, je vous en supplie. Comment?
Sans tricot, là, par dessus, par exemple.
Oui, en faisant un tricot autour des croisements. C'est l'algorithme de Denne. Hein. Les mathématiciens, ils ont tous un algorithme qui peut être mécanisé dans un computer, dans un ordinateur. C'est le procédé de lecture de Wintinger. Moi, mon algorithme, il fait appel à un acte du sujet. Il n'est pas mécanisable, le calcul de Denne. C'est pour ça que je fais pas marche arrière, mais je trouve que le calcul de Denne, il ressemble beaucoup en même temps au calcul de la logique et des diagrammes de l'Herbel. Vous comprenez? Donc on est entre logique, topologie et nœud. Bon. C'est pour vous dire que on peut très bien utiliser les deux axes du langage, le contexte et le paradigme. Le code, comme dit Jacobson. C'est pas un code, c'est un paradigme. Et puis le contexte, la métonymie et la métaphore. On peut utiliser les deux dimensions du langage. Hein. Mais le problème, c'est que justement, il ne faut pas rabattre la parole, le paradigme, le fait de lire sur la nature, et puis le fait d'écrire sur la machine. Vous voyez, il faut voir à quel moment, justement, la jet de boule, c'est une raréfaction, ce qui est un modèle électrique. Alors que la logique, ce n'est pas seulement faire du calcul dans la jet de boule. Et je vous dis, même la logique, elle se révèle comme incomplète. Donc c'est du langage. Et par contre, qu'est-ce que vous pouvez constater entre ces deux dessins et celui-là? Ici, il y a un croisement de moins que là et que là. Bon, ici, ça tourne. Quand j'en ai retiré 3 ici, j'en retire 2 ici et j'en retire 2 ici. Si je retire ça, pour obtenir celui-là. Celui-là, c'est le même que ça, c'est le même que ça. À partir du Borroméen, la semaine dernière, je vous ai dit, voilà, celui-là, vous voyez le Borroméen à 6. J'obtiens celui-là en rajoutant 2 croisements ici et 2 croisements là. Et ensuite, je peux en rajouter encore 2, ça va faire 14 croisements. Et ensuite, je peux en rajouter encore 2, ça va faire 18 croisements, etc. Vous voyez, c'est les chaînes qui sont là en haut, qui donnent les lacans qui sont là en haut. Ça, je sais faire. Et puis, à l'intérieur de ces trucs-là, je sais faire tourner des trucs d'un quart de tour. Bon, j'ai pas développé ça trop pour vous, parce que je ne veux pas vous fatiguer avec ça, mais il faudrait quand même s'apercevoir que ça, c'est des mouvements nœuds simples qui font du Whitehead. Tout ça, c'est des mouvements de Whitehead. C'est des mouvements nœuds hybrides. Bon. Et j'en suis à m'interroger sur ces deux-là. Celui-là, c'est celui que j'ai décidé la semaine dernière. On a ajouté ici et là, ou bien ici et là. Ça dépend où vous pouvez le mettre, ici et là, ou ici et là. Vous rajoutez 2 croisements. Comme on en a rajouté 2 ici, et là, dans ce cas-là. Et on a rajouté 2 croisements ici, 2 croisements là. Si j'en rajoute 2 ici, ça va faire un enlacement. Donc il faut que je fasse un contre-enlacement pour que ça reste borroméen. Vous voyez ce que j'appelle le contre-enlacement, hein? Vous faites un truc comme ça, pop, vous faites passer, vous rajoutez un enlacement d'un côté du fil. C'est génial le truc, regardez, vous ajoutez un enlacement d'un côté du fil bleu, il faut en rajouter un contre-enlacement de l'autre côté. Et le fil bleu empêche qu'il se défasse trop vite. Vous voyez, ça c'est le mouvement que j'ai appelé gordien. Défaire ces choses-là, c'est un mouvement gordien. Bon, le mouvement nœud, c'est plus mystérieux. Si vous lisez aucun nœud ouvert, il y a le gordien, il y a l'homotopie, le gordien propre, et puis il y a les gordiens non alternés. Bon, c'est une réflexion comme ça qui est de regarder un peu. Vous voyez, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, si j'ajoute un enlacement là, et quand j'ajoute le contre-enlacement là, ben, ils vont tenir. Vous voyez, ça tient, ça donne ça. Bon, mais maintenant, regardez, je peux ajouter un enlacement là et un enlacement là, ça va donner celui-ci. Ça va donner celui-là qui donne ça. Bon, donc c'est encore dans la même famille, on pourrait dire. Ça ressemble, c'est encore proche. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel-là? Il y a celui-ci qui correspond à celui-là, qui correspond à celui-là. Alors, regardez, je vous propose de commencer à lire. Y aurait-il pas, à votre avis, entre ça et ça, le fait qu'au lieu d'ajouter deux croisements ici et deux croisements là, entre ces deux fils blancs, qui ne sont pas bleus, entre ces deux fils blancs, j'ajoute un enlacement ici, et là j'ajoute un truc qui a un croisement propre. Regardez, au lieu de l'ajouter, vous voulez que je vous le dessine, celui qu'on a. Regardez sur la feuille que je vous ai envoyée, vous allez le voir. Au lieu d'ajouter deux croisements là, hein, oui, on ferme, on j'arrête. Au lieu d'ajouter deux croisements ici et deux croisements là, on rajoute un truc bizarre qui fait apparaître un autre, qui passe de l'autre côté du bleu. Il y a les deux croisements entre les deux fils qui fait que ça va être un contre-enlacement, et il y a un croisement propre en plus. Voilà, la question que je vous pose, c'est qu'on est en train de rentrer dans un truc dans lequel on est en train d'apprendre à lire, parce qu'on est en train d'explorer des figures, découper les figures, découvrir des figures comme dans la poésie, on parle de la métaphore, de la métonymie, des tropes. Ce sont des tropes graphiques. Voilà. Et vous voyez que ici, au lieu de le mettre là, le croisement, le double enlacement, le nouvel enlacement, on le met là. Mais quand on le met là, quand on passe le fil, on est obligé de rajouter un croisement. Sinon, ça ne marche pas. Bon, je vous laisse là pour ce soir, parce que je voudrais arriver petit à petit à vous intéresser à cette façon d'apprendre à lire. Voilà. Allez,